Voilà, bah écoutez, aujourd'hui nous continuons notre série intitulée « Satan, les démons et l'armure chrétienne ». Et nous faisons cette série parce que nous sommes dans Éphésiens 6. Donc on va lire encore ces textes, Éphésiens 6 à partir du verset 11. Et nous allons les lire juste pour nous remettre un petit peu dans le bain. Éphésiens 6, 11. Paul écrit à l'église des Éphésiens, il dit « Revêtez-vous donc ». De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Donc dimanche dernier, on a commencé notre série avec l'existence de Satan. Aujourd'hui, la nature de Satan. Dimanche prochain, les ruses de Satan. Et le dimanche d'après, la victoire contre Satan. Alors juste quelques mots de révision pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Dimanche dernier, nous nous sommes posé cette question. Satan et les démons existent-ils vraiment? C'est une question importante car beaucoup de personnes aujourd'hui n'y croient pas. Cependant, nous avons vu combien de cultures autour du monde aujourd'hui y croient. En fait, quelqu'un m'a dit dimanche dernier après le culte, mais ça je ne le savais pas, que le Bénin est apparemment le premier pays voodoo du monde. Lisez les journaux et voyez le nombre d'annonces pour les marabouts, les voyants, les cartomanciens. On s'est posé la question, pourquoi la France a-t-elle tellement de médiums? Un médium pour chaque 120 habitants, qui veut dire qu'il y a plus de médiums par habitant que de médecins. C'est quand même étonnant. Oui, Satan semble être bien vivant à notre époque. Alors, hier, dimanche dernier, on voulait se poser la question, alors qu'en dit la Bible? Alors, Satan est mentionné dans 7 livres de l'Ancien Testament et dans 19 livres du Nouveau Testament. Les démons sont mentionnés 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. Nous avons aussi vu dans le Nouveau Testament que Matthieu croyait à Satan, Paul croyait à Satan, Pierre croyait à Satan, Jacques croyait à Satan, Jude croyait à Satan. Et ce petit verset, alors Jésus parle abondamment de Satan. Jésus, puisqu'il était Dieu, pouvait voir l'avenir, et il a dit ceci dans Luc 10, 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Bien sûr, Jésus était vivant. Lorsque Satan est mort, est tombé du ciel, il a péché. Et bien sûr, Jésus est vivant, puisque c'est lui-même qui va le détruire à la fin des temps. Puisque Jésus est Dieu, il a toujours été. Et donc, il dit clairement qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et c'est exactement ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu que les anges ont été créés par Dieu pour être à son service, qu'il y en a des myriades et des myriades selon Apocalypse 5, 11, ça veut dire des beaucoup. Et à un moment donné, après leur création, quelque chose de tragique est arrivé dans le ciel. Un certain nombre d'anges, probablement un tiers, se sont rebellés contre leur créateur, Lucifer. Satan était leur leader, autrement connu sous le nom de diable, on verra quelques noms tout à l'heure. Et donc un tiers de ces anges l'ont suivi dans sa rébellion, et on les appelle les démons aujourd'hui. Leur domaine d'opération depuis est le monde, et un jour, nul ne sait quand, ils seront jetés dans le feu éternel de la gêne pour l'éternité, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et encore dimanche dernier, nous avons donc examiné en détail sa chute. Et là, nous nous sommes penchés sur Ézéchiel 28, je ne vais pas revenir dessus, qui décrit sa chute, et ensuite Ésaïe 14, qui décrit la nature de son péché, qui est l'orgueil. Donc voilà ce que nous avons vu dimanche dernier. Mais aujourd'hui, nous voulons approfondir un petit peu l'étude et essayer de comprendre qui est Satan, sa nature. Vous savez qu'il y a des personnes, lorsqu'ils parlent de Satan, ne pensent pas qu'il est une personne. Ils pensent que Satan est plutôt une sorte de force ou un concept négatif. Un exemple frappant de cette perspective vient de la plume d'Elisabeth Gilles, qui a écrit un article dans Mode de vie en 2007, le 8 avril, intitulé « Les anges nous parlent de nous-mêmes ». La question qu'on lui a posée est celle-ci. Qu'en est-il des mauvais anges ou des démons ? Elle répond, et je la cite, dans la Bible, l'exemple par exemple et par excellence est Satan, l'ange accusateur qui va jusqu'à tenter Dieu, c'est-à-dire le faire désespérer de sa création. Et ensuite elle dit, l'ange accusateur refuse qu'il y ait du bien dans le monde dans autrui. Cette figure de la Bible, dit-elle, donc c'est une invention, dit-elle, troublante et menaçante et très puissante. Satan n'est pas un diable avec des cornes. Et ensuite elle dit, il correspond à cette part de nous qui a tant de mal à se réjouir de ce qui est bien, surtout quand c'est l'autre qui est dans ce bien. Je ne sais pas si vous avez compris là. Ce qu'il dit en fait, si j'ai compris, j'ai dû lire plusieurs fois la phrase, c'est qu'en fait il n'y a pas de diable réel, mais que le diable est cette force en nous qui a de la peine à se réjouir de ce qui est bien. Et en fait, c'est ce feeling en nous qui aime se réjouir lorsque les choses sont mauvaises, ou se réjouit du mal. Le problème avec cette interprétation, c'est qu'elle spiritualise la Bible. Et il faut faire une sacrée gymnastique herméneutique pour conclure que la Bible ne décrit pas un diable réel. Ça, c'est vraiment dur à imaginer que ce n'est pas un diable réel. Alors, voyons comment la Bible décrit le diable. D'accord ? Nous allons voir trois aspects de sa personne. Premièrement, sa personnalité, la personnalité de Satan. Deuxièmement, les noms de Satan qui nous révèlent énormément sur lui. Et ensuite, le caractère de Satan. D'accord ? Alors, c'est parti. La personnalité de Satan. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est ça. Est-ce que Satan est vraiment une personne ? Alors, pour savoir si c'est une personne, il faut voir si la Bible décrit Satan comme une personne. C'est pas compliqué. Alors, il faut se poser donc cette question. Qu'est-ce qui fait d'une personne une personne ? Et pas autre chose. C'est quoi une personne ? Alors, c'est très compliqué. Une personne, c'est quelqu'un avec de la personnalité. Personnalité. En fait, c'est pas faux. Quels sont les traits de personnalité qui font d'une personne une personne ? Je vous en donne quelques-uns. Premièrement, et là, nous voyons bien sûr de Satan. Satan possède un corps. Ah bon ? Possède un corps. 1 Corinthiens 15, 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Donc nous avons tous des corps différents, animaux et personnes. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Oui, il y a des corps célestes, les anges ont les corps. Et Satan est un ange déchu avec un corps, bien sûr un corps céleste. Deuxièmement, il a une intelligence. Il est très intelligent. 2 Corinthiens 2,11 nous dit ceci. Paul dit, « Attention, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Ça veut dire qu'il cherche à avoir avantage sur nous, et il dessine, il planifie des choses contre nous. Ça, c'est une manifestation d'intelligence. Et 2 Corinthiens 11,3 nous dit qu'il séduit. Troisièmement, nous voyons qu'il a des émotions. Satan a des émotions, oui, comme vous et moi. Dans Apocalypse 12, 12, nous lisons ceci. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux ?» Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi est-il en grande colère ? Sachant qu'il a peu de temps. Ça, c'est intéressant. Satan est dans une grande colère parce qu'il connaît sa fin et il sait que le temps se rapproche jusqu'au jour de sa fin. Et donc, nous apprenons qu'il a des émotions. Et chapitre 12, verset 17 nous dit en plus qu'il est irrité. Il fait preuve aussi de volonté. Dans 1 Timothée, verset chapitre 2, et le verset 25, 1 Timothée 2, 25.2 Timothée 2, 25, il doit redresser, parlant du serviteur de Dieu, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez, le diable a une volonté et il cherche des gens pour qu'il puisse imposer sa volonté au travers de personnes. Il a aussi une mémoire, un texte incroyable. Vous rappelez la tentation de Jésus dans Matthieu 4 ? Il y a vraiment un clash entre Satan et Jésus. Alors beaucoup de gens se disent, oui, alors ce texte il est super parce qu'on voit que Jésus utilise les Écritures pour se défendre contre Satan, ce qui est tout à fait juste. Il cite chaque fois les Écritures et que nous nous protégeons de Satan en citant les Écritures. Ce qui est vrai, on verra ça dans 2 semaines. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que Satan lui-même aussi connaît les Écritures. Et dans Matthieu 4 et le verset 6, il est dit, et donc c'est Satan qui parle, et il dit ceci, il parle à Jésus, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Donc il est sur le sommet, enfin sur le coin de la ville de Jérusalem. Alors il dit à Jésus, « Écoute Jésus, saute !» Jette-toi en bas, et ensuite il dit, pourquoi ? Car il est écrit dans les Écritures, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est intéressant, Satan cite le psaume 91, les versets 11 et 12, mais attention, il cite ce texte hors contexte. Il prend les Écritures, il les tord et les manipule pour leur faire dire quelque chose qui n'était pas l'intention de Dieu. C'est pour ça que Jésus réagit et il dit, verset 7, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Jésus est en train de dire à Satan, « Satan, si je fais ce que tu me demandes de faire, là je tente Dieu, ce n'est pas le but du texte. » Alors, comment est-ce que Satan a appris à connaître les Écritures ? Vous êtes prêts ? En les lisant. Eh oui. Il a lu, je ne sais pas comment, mais il a lu les Écritures comme vous et moi. Il a une super mémoire et il connaît les Écritures, probablement mieux que vous et mieux que moi. Nous le savons parce qu'il est, c'est une personne. Et il cite littéralement les Écritures. C'est étonnant, je trouve. Absolument étonnant. Finalement, nous voyons que Satan, on prouve encore qu'il est une personne. Il possède une mémoire. Ça, je viens de le dire, il mémorise les Écritures et il possède une capacité d'organisation. C'est intéressant que dans 1 Timothée 4, et le verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. » Non, ça c'est 2 Timothée, décidément. 1 Timothée 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Satan propage ses doctrines erronées à ses démons qui, eux, propagent ses doctrines erronées dans le monde. Apocalypse 2:9 nous dit qu'il possède une synagogue. Nous avons vu dans Apocalypse 12 qu'un tiers des anges se sont rebellés contre lui. Il a organisé une rébellion. Oui, il a une capacité d'organisation incroyable. Et je trouve intéressant aussi, on le reverra tout à l'heure, mais dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Alors ça c'est intéressant. Il cherche qui il va dévorer. Il organise son piège. Et au bon moment, il nous dévore. du moins, enfin, pas nous, non, pas nous les chrétiens, bien sûr. Ça, on verra dans 2 semaines. Alors, tout ça pour montrer que Satan est une personne. Il était créé par Dieu, un ange. Alors, une personne angélique, bien sûr, il s'est rebellé. Et aujourd'hui, il a un corps, une intelligence, des émotions, une volonté, une mémoire, une capacité d'organisation. Passons maintenant au nom de Satan. Les noms de Satan. Alors, je ne sais pas, si vous êtes ici ce matin, alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines en arrière, on avait un chien ici, d'accord? Mais ce matin, je crois qu'il n'y a pas d'animaux, si je ne me trompe pas. Nous sommes que des personnes, d'accord? Et si vous êtes une personne, si vous êtes ici ce matin, vous avez un nom. Parce que tout le monde a un nom ici. Voilà, d'accord. Alors, un nom, c'est important parce que c'est une des manières que nous nous différencions d'une personne à l'autre. Nous donnons un nom. Le nom sert un petit peu comme titre, une manière de nous identifier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la signification de votre nom. Alors, moi, je vais vous donner la signification de mon nom. Ma femme, elle aime bien la signification de mon nom. Parce que mon nom veut dire don de Dieu. Pas mal, hein? Donc, apparemment, je suis le don de Dieu à ma femme. Mais attendez voir. Est-ce que vous connaissez le nom de son, la signification de son nom, Margaret? Perle, c'est ma perle. C'est beau, non? C'est super beau. Moïse voulait dire sauver des eaux. Ésaü voulait dire roue. Bref, Satan aussi a des noms. Il n'a pas qu'un nom, il a beaucoup de noms. En fait, la Bible nous donne plus de 20 noms ou titres qui lui sont attribués. Alors, on va en prendre simplement les quelques-uns qui sont les plus importants, parce qu'on n'aurait pas du tout le temps de les voir tous, mais ça va nous aider à mieux comprendre qui est Satan, d'accord? Alors, premier nom, Satan. Satan. 52 fois, il est utilisé, et vient du mot hébreu qui veut dire adversaire ou celui qui oppose. Il est adversaire, il s'oppose. Alors, il s'oppose à qui? Eh bien, nous l'avons vu dans Ésaïe 14 qu'il s'oppose en premier à Dieu. Il s'oppose à Dieu. Nous avons vu aussi qu'il s'oppose aux anges de Dieu dans Apocalypse 12, lorsqu'il a pris un tiers des anges avec lui. Il s'est opposé au rôle que Dieu leur avait attribué pour les prendre avec lui. Mais troisièmement, il s'oppose au peuple de Dieu, mes amis. 1 Thessaloniciens 2.18 nous parle de cela. 1 Thessaloniciens 2.18, merci. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, et une même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Satan nous a empêchés de venir vous voir. Alors, comment? On ne sait pas. Mais Paul était, il savait qu'à un moment donné, il avait des projets d'aller voir, mais que c'était Satan qui l'avait arrêté de pouvoir le faire. Alors, si c'est le cas, ce qui est le cas, c'est pour ça que Éphésiens 6 nous dit que nous devons absolument porter l'armure de Dieu pour nous protéger contre les déceptions. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que Paul, qui était le premier missionnaire de tous les temps, lui-même a été attaqué par Satan. Donc, Satan est l'adversaire, celui qui oppose. Deuxièmement, le deuxième nom, le diable. Le diable, utilisé 35 fois dans le Nouveau Testament, du grec diabolos, qui signifie dia par-dessus et ballot lancer. Lancer par-dessus quoi? Lancer les calomnies. Le mot diable veut vraiment dire calomniateur. Et ces calomnies sont des imputations mensongères qui attaquent la réputation et l'honneur d'une personne. Il aime attaquer, et faussement. Il cherche à faire du mal à Dieu et à endommager sa réputation. Lorsqu'il a tenté Jésus-Christ, dans Matthieu 4, il essayait de lancer des accusations contre Christ pour essayer de faire pécher Jésus, pour lui montrer, c'est ce qu'il voulait essayer de faire, qu'il n'était pas saint et qu'il pouvait pécher. Mais Christ n'a pas péché. Il accuse aussi les anciens. C'est un petit verset intéressant, je l'ai lu la semaine dernière aussi. 1 Timothée 3,7, il faut aussi, parlant d'un ancien, qu'il reçoive un bon témoignage de celui de l'or, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et aussi, verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Le diable nous calomnie et il veut nous faire du mal. Il veut nous accuser. 3. Le malin. Le malin. Le malin veut dire ce qui est mal. Ce nom révèle le caractère pervers de Satan. Il est mauvais et cherche à tirer le monde de plus en plus vers le mal. Regardez avec moi 1 Jean 5:18. 1 Jean, l'épître de 1 Jean, chapitre 5 et le verset 18. Très intéressant. 1 Jean 5:18. Il dit ceci: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'il est sans péché. Ça veut dire que l'habitude du péché n'est plus la norme dans sa vie. Il ne pratique plus avec habitude le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors ça, je trouve intéressant. Qui le malin ne touche pas? Il ne peut pas posséder quelqu'un, il ne peut pas faire du mal, je dirais, éternel à quelqu'un. C'est qui? Mais il le dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Un chrétien est protégé de Satan. Et Satan veut faire du mal aux chrétiens, mais il est protégé. Il ne peut pas être possédé. Mais un non-chrétien, c'est une autre histoire. Il n'a aucune protection vis-à-vis de Satan. Aucune. 4. Le serpent ancien. Ça, c'est un drôle de nom, vous ne trouvez pas? Le serpent ancien. Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ça, c'est vraiment un verset rempli d'informations, quoi. Le nom que je veux sortir ici, c'est le serpent ancien. C'est quoi les traits d'un serpent? La séduction et la ruse, hein, c'est le symbole. Pourquoi? Parce que dans Genèse 3, Satan a possédé un serpent. Il a dit dans Genèse 3:1, le serpent était les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Rusé. Il se fait passer pour un serpent pour semer l'erreur. 5. Cinquième nom. Un lion rugissant. Un lion rugissant. C'est incroyable, non? Vous ne trouvez pas l'information qu'il y a sur Satan dans la Bible? C'est incroyable. 1 Pierre 5,8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, qui a déjà entendu un lion rugir? Au cinéma. Ah ouais, c'est quel? Il y a une société de films. Maître Goldemeyer, waouh, il y a le lion, d'accord. Donc ça, c'est le lion rugissant. Le film va nous manger, d'accord. Si vous êtes dans les plaines d'Afrique un jour, vous vous promenez et que vous entendez proche de vous un lion qui rugit, là, je pense que vous savez que vous avez un très gros problème, d'accord. Un très, très gros problème. On me dit que les lions rugissent juste avant d'achever leur proie, sachant que la victoire est assurée. Il y a 2 ans en arrière, James et moi, on était invités en Ouganda pour une conférence de pasteurs. J'étais jamais allé en Afrique, donc j'y suis allé. C'était vraiment, vraiment génial. On a fait une conférence avec 300 pasteurs et à la fin de la conférence, notre hôte qui était ici, en fait, c'est Shannon Hurley, vous vous rappelez peut-être de lui, nous a dit, écoutez, vous devez faire un safari. Alors, on est allé faire un safari dans un de ces immenses parcs en Ouganda. Et à un moment donné, alors il avait une Jeep, comme dans les films, d'accord? Donc, il avait une Jeep. James était sur le toit. Moi, j'étais dans la Jeep. Et à un moment donné, on s'arrête et il y a donc ces grandes plaines africaines, comme dans les films, avec des grands arbres qui font l'ombre. Et sous un arbre, il y avait une girafe. C'était pas le cirque CNIL, hein, c'était vraiment l'Afrique, d'accord? Alors, Shannon, il dit, John, James, est-ce que vous aimeriez aller essayer de toucher la girafe? Il dit, ah ouais, super, on va toucher une girafe en Afrique, c'est génial. Alors il dit, bah, écoutez, moi je m'arrête là. Alors vous traversez, là, vous savez, il y a de l'herbe haute à peu près jusqu'à la taille. Il dit, bah, vous traversez l'herbe et vous allez vraiment, vraiment mollo et vous allez voir si vous pouvez toucher la girafe. Alors James, on dit, ah super, on va aller toucher une girafe. Alors on sort de la Jeep et juste avant de partir, il dit, faites un peu attention parce qu'il pourrait y avoir des lions. J'ai dit, quoi? Ben ouais, écoute, bon, on est en Afrique, il pourrait y avoir un lion, alors faites quand même un peu attention. J'ai dit, non, mais c'est n'importe quoi, étant là. Allez, promener là où il y a des lions. Alors, vous savez ce qu'on a fait? On y est allé. On y est allé quand même. Il a dit, ben, écoute, si tu entends un lion rugir, c'est fini. Alors, je voulais vraiment toucher la girafe et James aussi. Alors, on est allé et je disais, oh Jésus, s'il te plaît, pas de girafe. Oh, pas de lion. Oh, s'il te plaît, Jésus, pas de lion aujourd'hui. J'ai pas envie de mourir, mais j'ai vraiment envie de toucher ma girafe, quoi. Alors, on est allé tout doucement toucher la girafe et tout d'un coup, la girafe nous a vus. Alors, elle a commencé à marcher. Alors, James et moi, on a marché plus vite. Elle a commencé à courir et malheureusement, ses jambes sont plus longues que les nôtres. Alors, on a couru là pour essayer de toucher la girafe. On n'a jamais touché. Et je suis ici pour vous dire qu'il n'y avait pas de lion non plus. Mais j'ai vraiment eu peur, quoi. À un moment donné, qu'un lion viendrait nous manger. Bref, ça m'a fait penser à ce verset. Un lion rugissant. Voilà ce qu'est Satan. Il se planque dans la jungle autour de nous. Et il attend le moment propice pour essayer de nous dévorer. Et Dieu sait combien de gens ont été dévorés par Satan. Dernièrement, nous voyons aussi le tentateur. Vous vous rappelez dans Matthieu 4:3, le tentateur s'étant approché de Jésus lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Alors Satan s'est approché de Jésus pour essayer de le tenter au péché, de le faire chuter. Et bien sûr, ça n'a pas marché. Donc il tente, il veut nous tenter au mal. Est-ce que j'aime bien le septième ? Oui, alors le septième, c'est maintenant l'accusateur, si je ne me trompe pas. Oui, l'accusateur. Il y a aussi l'accusateur. Juste peut-être un mot sur la tentation. Vous vous rappelez que Satan a tenté Adam et Ève à prendre du fruit interdit. Il a essayé de tenter Christ à pécher dans Matthieu 4. C'est intéressant, dans Acte 5, dans l'église primitive, il y a un moment donné, c'était justement le moment d'offrande où les gens amenaient leur offrande pour, comme on l'a fait tout à l'heure. Il y avait un homme et sa femme qui s'appelaient Ananias et Saphira. Il est dit ceci, mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété. Donc, ils avaient une propriété, ils étaient assez riches, ils ont vendu une propriété, ils avaient décidé de donner l'argent à l'église. Mais il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Donc, ils avaient fait un vœu à Dieu. Ils avaient dit, on va te donner tout. Et une fois qu'ils ont vu le gros lot, ils ont décidé, bon, bah, on va donner peut-être 80% et on va garder le reste. C'était pas un mal de garder le reste, sauf qu'ils avaient apparemment fait un vœu à Dieu comme quoi ils donneraient tout. Et donc, ils ont renié leur vœu. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu ne mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu permettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Le gars, il meurt sur le champ dans l'église. Prochaine phrase, une grande crainte saisit tout l'auditoire. Je pense. Je pense qu'ils se sont dit, waouh, attention, dans cette église, waouh. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il avait été tenté par Satan, nous dit le texte. Satan l'a tenté à mentir par rapport à une promesse qu'il avait faite. Et c'est intéressant qu'il le cite aussi les chrétiens à l'immoralité sexuelle. Il est dit que dans un mariage, un homme et une femme devraient avoir des relations sexuelles régulières. Pourquoi 1 Corinthiens 7:5 nous dit « Ne vous privez, parlant à un homme et une femme mariés, ne vous privez point sexuellement l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord et pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » C'est intéressant, la Bible est tellement honnête. Elle dit que dans un couple, les relations sexuelles doivent être régulières et surtout ne pas être trop longues en absence, à moins que ce soit pour des raisons spirituelles. Pourquoi ? Parce que Satan va utiliser cela pour te piéger et te mener au péché sexuel et à l'adultère. Donc vous voyez, Satan, il est malin et il cherche toutes les failles possibles pour nous faire chuter. Ça, c'était en fait l'accusateur. C'était l'accusateur. Non, ça c'était tentateur, excusez-moi, le tentateur. Et maintenant c'est l'accusateur, juste un mot. Il est appelé aussi l'accusateur, on l'a vu dans Apocalypse 12. Intéressant, il est dit qu'il a été précipité, verset 12, Apocalypse 12, 10, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Écoutez-moi bien, chrétien. Vous savez ce qu'il aime faire, Satan, avec nous, chrétiens ? C'est de nous culpabiliser. Ça, il est champion pour ça. Il aime culpabiliser les chrétiens pour leur faire croire qu'ils ne sont pas vraiment pardonnés par Jésus-Christ, qu'ils n'ont pas vraiment la vie éternelle. Parce que le chrétien, il regarde ses défauts. Moi, je regarde mes défauts, mes manquements, mes péchés. Certains péchés, on n'arrive pas facilement à s'en défaire. Mais alors, on a l'impression parfois qu'on est des nuls. Ça vous est déjà arrivé ? Alors, Satan, il est super content quand vous pensez ça. Parce qu'il va devant Dieu et dit, regarde ce pauvre soi-disant chrétien. Quelle honte! Et vous savez pourquoi il veut garder les chrétiens découragés? Vous savez-vous pourquoi il veut que vous doutiez de votre salut, de votre sanctification? Que vous vous rappeliez de tous vos péchés, ceux que Jésus-Christ a déjà pardonnés? Parce qu'il veut que vous viviez dans le découragement, parce que quand vous vivez dans le découragement, vous êtes totalement inefficace. Un chrétien découragé, c'est pas un chrétien qui va aller parler à son voisin ou à son ami, « Ah, tu sais, Jésus-Christ, il a transformé ma vie !» Parce que tu as l'impression que ta vie, c'est nul. Et donc, un chrétien découragé, c'est un chrétien inefficace. Alors, que faire ? Que faire lorsqu'il continue de t'accuser, que tu te sens plus accusé que Jésus t'accuse ? Jésus ne t'accuse pas, il te pardonne. Moi, je fais plusieurs choses, parce que ça m'arrive à moi aussi, vous savez, on est tous pareils, hein, on est exactement la même chose. Premièrement, je vais à Jean, 1 Jean 1,9, qui me dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je vais à ce verset, je dis, « Jésus-Christ, tu es mort, tu es ressuscité pour moi, tu me déclares pardonné parce que j'ai confessé mon péché, c'est fait, et donc je l'accepte par la foi. Je suis pardonné. Même si je ne le ressens pas, je lui dis, c'est déclaré, c'est décidé. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas condamné, je suis pardonné. 1. Deuxièmement, je vais au chapitre 2 de 1 Jean et au verset 1 et 2 qui me dit que j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je dis, Seigneur Jésus, tu as déjà été la victime expiatoire pour moi. Tu es déjà mort sur la croix, tu as déjà pardonné mon péché, donc je n'ai pas besoin de me culpabiliser. Apparemment, toi tu regardes et tu ne vois pas le péché comme moi je vois. Donc, je veux ton regard, pas mon regard sur mon péché. Et troisièmement, je continue. Je continue ma route chrétienne. Avec les sentiments ou pas, c'est pas ça la question. Je continue à faire ce que Dieu me demande. Cette semaine, un pasteur m'a appelé, il était découragé. Il se sentait peu apprécié dans son ministère, critiqué, fatigué. J'ai tenté de l'encourager. Et je lui ai dit, écoute, y a-t-il du péché non confessé dans ta vie ? 1 Jean 1,9. Je lui ai dit, es-tu en règle avec ton épouse ? Parce que 1 Pierre 3,7 aussi nous dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. J'ai dit que tu es en règle avec ton épouse, parce que ça peut faire obstacle vis-à-vis de tes prières. Christ t'a pardonné. Ne dépend pas de tes émotions. Et Satan essaye de t'accuser et t'accuser et t'accuser. Ne le laisse pas. Persévère. Passons à la troisième partie de ce message, et là je pense que vous allez vraiment être intéressés. Nous avons vu la personnalité de Satan, les noms de Satan, troisièmement le caractère de Satan. Là c'est vraiment intéressant et j'espère que ça va nous aider à mieux comprendre vraiment l'historique biblique. Regardez avec moi Jean 8, 44. Jean chapitre 8 et le verset 44. Jean 8, 44. Alors, c'est un incident où Jésus et les pharisiens sont en conflit. Regardez, les pharisiens étaient les juifs religieux qui ne croyaient pas qu'il était le Messie. Il y a un dialogue qui se fait, regardez à partir de Jean 8, 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, dit Jésus, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Donc, il est en train de dire, votre père et mon père sont différents. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Les Juifs disaient, ouais, nous, notre père génétique, si on veut, c'est Abraham. Il dit, mais attends, si vous êtes vraiment père d'Abraham, faites ce qu'Abraham a fait. Les mêmes œuvres. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Parce qu'il disait, ouais, tu vois, Jésus, on sait très bien, t'es enfant illégitime. Ta mère, Marie, apparemment a eu des relations sexuelles avec, c'est ce qu'il disait à l'époque, probablement un soldat romain. Il ne pouvait pas imaginer qu'une femme avait été conçue par le Saint-Esprit. Donc, il l'appelait un enfant illégitime. Jésus leur dit au verset 42, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Maintenant, écoutez. Jésus dit aux pharisiens juifs, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond et il est menteur et le père du mensonge. Notez que Jésus leur dit en premier, votre père c'est le diable. Donc une personne qui n'a pas le père céleste a comme père le diable. Et il dit qu'il était meurtrier dès le commencement. Voilà son premier caractère. Il était meurtrier dès le commencement, comme les pharisiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était meurtrier? Écoutez bien, c'est vraiment intéressant. Allez avec moi à Genèse 3. Genèse chapitre 3. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Lorsque Adam et Ève ont péché, Satan les a tentés. Dieu maudit l'homme, il maudit la femme, et ensuite il maudit le serpent. Regardez ce qu'il dit au chapitre 3 et au verset 15, dans sa malédiction du serpent. Il lui dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce verset, la plupart des érudits bibliques le pensent, pointe à cette bataille céleste entre Satan et Jésus-Christ. Il dit ceci, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. » Parlant du serpent, il dit, « Ta postérité, donc c'est Satan et les non-croyants issus de lui, et sa postérité, parlant de Christ, descendant d'Ève, et ceux qui sont en lui. » Maintenant, regardez ce qu'il dit. « Celui-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ce verset indique que le serpent Satan blessera celui qui écraserait sa tête. Alors, Satan, c'est vrai, a blessé Jésus. La crucifixion était une blessure. Mais Jésus écrasera la tête de Satan à la fin des temps. Et ce que nous voyons à partir de là, dans toute la Bible, c'est que Satan essaye de détruire celui qui va lui écraser la tête. Satan veut à tout prix arrêter la crucifixion, arrêter, enfin, bien sûr il va le crucifier, mais il ne veut pas que lui soit condamné pour l'éternité dans l'enfer. Et donc il va essayer d'éliminer Jésus-Christ avant la crucifixion. Je vous donne quelques exemples. Dans Genèse 4:8, juste un chapitre plus loin, il y a le meurtre. Le meurtre où Caïn tue son frère Abel. Et il est dit, verset 8, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » C'est intéressant que le premier meurtre, appelé Satan, est un meurtrier, le premier meurtre arrive un chapitre après la chute. Satan essaye, écoutez bien, de détruire la lignée généalogique du Messie à venir. S'il peut arrêter cette lignée, il n'y aura pas de Jésus-Christ. Mais c'était raté. Dans Exode 1, Vous rappelez, le peuple juif est en Égypte. Et Satan incite Pharaon à vouloir tuer tous les garçons juifs. Et au verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chiphora et l'autre Poua, et leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Pharaon veut que tous les garçons juifs soient tués. Pourquoi ? Ben, Satan, il est malin. Il faut se débarrasser du délivreur, Moïse. Il n'y aura pas de peuple juif et pas de Messie. Mais heureusement, les sages-femmes ont refusé. Verset 17, « Les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. » Les sages-femmes ont refusé et Satan n'a pas pu éliminer la lignée de Jésus-Christ. Regardez cette attaque frontale dans Matthieu 2. Cet incident, on le connaît, mais peut-être on ne l'a jamais vu dans cette lumière. Vous vous rappelez, les rois mages viennent à Jérusalem et le roi Hérode a très peur parce qu'ils sont en train de rechercher un roi et il est menacé. Le roi est tellement menacé par la naissance d'un soi-disant nouveau roi juif qu'il fait une chose incroyable. Chapitre 2, de verset 13 de Matthieu, « Lorsqu'ils furent partis les rois mages, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste là jusqu'à que je parte, jusqu'à que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit, le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. » Satan, il s'est dit, si je peux influencer Hérode à tuer tous les petits garçons, le Messie sera éliminé. Mais Dieu, par un incroyable miracle, par des songes et des rêves, permettent que Joseph et Marie échappent ce meurtre. Voyez-vous, Satan a toujours cherché à éliminer Jésus avant la crucifixion dans le temps de Dieu. Dans Matthieu 4, lorsque Jésus est dans la synagogue. Ah non, excusez-moi, c'était plutôt dans la tentation de Jésus lorsque Satan lui dit « Écoute, saute, et les anges vont prendre soin de toi. » Mais il n'était pas bête, ce qu'il essayait de faire, c'est de tuer Jésus. Dans Matthieu 8, lorsqu'il y a un orage sur la mer de Galilée, Jésus essaie de le noyer. Dans Luc 4, Satan utilise les voisins, les amis de Jésus pour essayer de le tuer en le précipitant d'un précipice. Et combien de fois est-ce qu'on a essayé de lapider Jésus ? Oui, Satan est meurtrier dès le commencement. Et puisque Jésus-Christ est mort et ressuscité, puisque la fin de Satan est déterminée, Satan sait qu'il ne peut plus s'acharner contre Christ. Alors vous savez ce qu'il fait ? Maintenant, il s'acharne contre nous. Contre nous. Contre nous, les chrétiens. Et il essaie de prendre avec lui autant de non-chrétiens qu'il peut. Nous apprenons qu'il est aussi menteur dans ce même verset. Menteur et père du mensonge. Dans le sens qu'il est le premier à avoir menti. Et donc, il est devenu le père de tous ceux qui vivent hors la vérité. Quels sont certains des mensonges qu'il propage ? Je vous en donner quelques-uns. Voici quelques-uns des mensonges qu'il propage autour de nous. Que Dieu est un rabat-joie cosmique. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est fini. Plus de joie, tu ne pourras plus rien faire. C'est fini, la vie est finie pour toi. Écoutez, c'est le contraire. C'est le contraire. Amen ! Que Dieu est un menteur, que le jugement n'arrivera pas. Il n'y a pas vraiment un feu éternel. Il n'y a pas un enfer. Ça n'existe pas. C'est exactement ce qu'ils ont dit, ce qu'il a dit à Adam et Ève. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous mourrez? Mais arrête. Et ça, on l'entend tous les jours. Quoi, John, tu crois vraiment qu'il y a un enfer? Non, mais t'en vas, tu sors d'où, toi? Acte 5 nous montre que Satan nous fait croire qu'on peut mentir à Dieu sans conséquence. Ananias et Saphira ont essayé. C'est intéressant, un des grands mensonges aujourd'hui, c'est que ouais, les relations sexuelles avant ou à l'intérieur du mariage, donc en tant qu'adultère, aucune conséquence. Fais ce que tu veux, éclate-toi. C'est intéressant. Dans Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Mais arrête! Est-ce que Dieu vraiment, il juge les adultères et les débauchés aujourd'hui? Ben écoute, moi je regarde les statistiques, je regarde les familles éclatées, je regarde toutes sortes de maladies sexuelles, sexuelles, transmissibles. Je vois les gens qui galèrent dans la vie parce qu'ils ont eu tellement de relations sexuelles, ils cherchent vraiment l'amour, mais ils ne l'ont jamais trouvé. Bon, si tu crois que Dieu ne juge pas, ben écoute, ok. Moi, je pense que Dieu juge de manière profonde ceux qui refusent d'obéir au plan de Dieu. Que la Bible n'est pas inspirée de Dieu, voilà un autre mensonge. Quoi? Tu crois vraiment que ce livre est inspiré de Dieu? Ouais, pourquoi? Parce que la Bible dit, je sais que c'est vrai. 2 Timothée 3,16. Que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Tu crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu? Mort et ressuscité? Absolument. Ouais, mais tu adores. Tu crois vraiment ça? Ouais. Absolument. C'est un mensonge satanique. Le contraire. Et un autre mensonge, c'est qu'on peut être sauvé par un autre moyen que la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé que par une foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les bonnes œuvres, c'est par notre foi, par la grâce de Dieu qui nous rachète. Il nous dit, je t'aime, je t'offre mon Fils, accepte par la foi et je vais te transformer. C'est le seul moyen d'être sauvé. Acte 4, 12. Éphésiens 2, 8 et 9. Et finalement, il est appelé pécheur. 1 Jean 3, 8 et 9, et je termine avec ceci. 1 Jean 3, 8 et 9. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement, et le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mes amis, la seule protection que nous avons contre le diable, c'est d'être né en Dieu, par le biais de son Fils Jésus-Christ. C'est la seule protection. Si tu ne connais pas Jésus-Christ aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, tu n'as aucune protection. Aucune. Inclinons-nous dans la prière. Je ne sais pas comment tu réagis, est-ce que tu as entendu ce matin, il y a beaucoup d'informations, je sais. Nous avons beaucoup parlé de Satan. Mais nous avons adoré Jésus-Christ pendant la première partie du culte. Car il est vivant aujourd'hui, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan et les démons. Et Jésus-Christ t'aime. Et il t'offre le pardon de tous tes péchés. Et il t'offre la vie éternelle ce matin. Ouvre ton cœur à lui et dis-lui, ô Jésus, je veux être protégé de Satan. Je veux être pardonné de mes péchés. Je veux recevoir la vie éternelle. Seigneur, maintenant, dans mon cœur, envahis-le. Deviens mon sauveur. Deviens mon Seigneur. Protège-moi du malin. Donne-moi la victoire en Jésus-Christ. Et pour ceux ici ce matin, Seigneur, qui connaissent Jésus-Christ déjà, mais qui sont dans les moments de faiblesse, ô Seigneur, fortifie-les. Seigneur, qu'ils reviennent à la parole de Dieu. Qu'ils marchent par la foi. Qu'ils prennent le bouclier qui est la foi et l'épée qui est la parole de Dieu, Seigneur. Et même s'il y a un lion rugissant juste à côté d'eux, Seigneur, qu'ils puissent savoir qu'en Jésus-Christ, ils sont protégés. À toi la gloire. Et nous te remercions pour toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen.